Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les élections algériennes depuis le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM à Marseille. Nous retrouvons nos invités, Ali Bensaad, géographe du Maghreb, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et enseignant-chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, et François Burga, politologue et directeur de recherche également à l'IREMAM. Ali Bensaad, on a terminé la première partie de l'émission sur pourquoi la candidature de M. Bouteflika se faisait sur cette élection algérienne du 17 avril. On l'a bien compris, un candidat pour éviter que des décisions ne soient à prendre à une échéance précise. Et vous évoquiez en fin de première partie cette notion de mutation des islamistes. De quoi est-il question ?
Je peux même aller utiliser le terme un peu banalisé d'aggiornamento, parce qu'au fond, il y a deux forces qui sont essentielles, mais qui ont pu jouer contre le processus démocratique, l'armée pour les raisons dans lesquelles je dis. Les islamistes qui, tout en étant une force de transformation, ont été quand même utilisés comme épouvantail, etc., etc. Et il est vrai que l'intérêt, si je peux dire, de cette candidature de Bouteflika, c'est qu'elle est en train de coaliser les forces d'opposition et une fenêtre d'opportunité contestatrice et fédératrice contre le régime est en train de s'ouvrir. Je donne pour preuve que dans le front du refus, il y a quelqu'un comme Djaballah qui occupe l'espace politique qu'est le FIS, parce que le FIS actuellement, il est atomisé entre différentes fractions. Le chef de l'AIS va peut-être soutenir Benflis après avoir soutenu Bouteflika, etc. On peut revenir dans les détails. Et de l'autre côté, vous avez le RCD, c'est-à-dire le parti laïciste, éradicateur, etc. Mais je pense que c'est pas seulement le contexte national, c'est le contexte international. François parlait du contexte égyptien, parlait quel contact, discussion que j'ai. Le contexte égyptien a eu aussi un effet. Alors, non pas qu'il a montré l'aventure, si je peux dire, d'une confrontation directe avec l'armée. Parce que si jusque-là, en fait, en Algérie, les gens ne bougent pas, il y a le traumatisme de la guerre civile, mais il y a aussi la responsabilité des forces politiques et des forces de la société civile qui ne veulent pas d'une deuxième boucherie. Ça ne veut pas dire qu'ils baissent la tête, qui sont en train d'essayer d'autres formes. Je pense aussi, la leçon qui a été tirée de l'expérience égyptienne, c'est comment les islamistes, avec un si fort soutien, ont réussi à s'isoler. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'État, c'est vrai que les militaires ont raflé la mise, mais il est vrai que les islamistes ont eu, si je peux dire, le génie de s'isoler de toutes les forces qui les ont soutenues à un moment donné, comme celles qu'ont pu connaître certains partis communistes, etc. Aussi fort que puisse être l'enracinement de ces mouvements dans les sociétés, elles fonctionnent aussi comme des contre-sociétés, comme l'ont été les partis communistes à l'Ouest, etc., et qu'elles se sont projetées comme une possible société. Et là, elles comprennent qu'il y a un aggiornamento à faire, des mutations, etc. Et je pense que la chance de la démocratie en Algérie, c'est les mutations que peuvent connaître ces deux forces-là. Je pense que l'expérience aussi a montré la nécessité de prendre en compte les islamistes comme force. François Burga est un de ceux parmi les premiers qui a attiré l'attention sur la nécessité d'en tenir comme force politique. Ça n'a pas été théorisé et autres. En Algérie, en 88 jusqu'en 91, il y avait des forces. Je ne parle pas que de celles qui étaient structurées comme le FFS, mais de forces dans la société, dans le gouvernement. Quelqu'un comme Hamrouch, qu'on a comparé à un Gorbatchev, était dans une démarche réelle et sincère d'intégration des islamistes pour les isoler, pour les user, mais en même temps de réelle intégration. Et je pense que si il y a convergence entre ces trois facteurs, maintenant il faudrait qu'aussi qu'il y ait une soutenabilité dans l'opposition. Octobre 88, ceux qui l'ont déclenché n'ont pas eu cette soutenabilité en Égypte, etc. Mais je pense qu'effectivement, s'il y a grincement de dents à l'intérieur du système, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il y a une faute qui va leur coûter cher.
Rapidement, François Burga, vous partagez ce que vient de dire Ali Bensaad. Après ça, on va parler économie.
Oui, l'une des richesses de la société politique algérienne, c'est qu'elle a de longue date démontrer que le prisme très simplificateur à travers lequel a été présenté au monde le phénomène islamiste, elle était capable de le dépasser. Je dis parfois pour le plaisir de provoquer que de peur de ce fameux slogan « un homme, une voix, une foi hein, » et la démocratie disparaîtrait. Nous avons tous, parce que la France a joué un rôle direct dans l'effondrement du processus démocratique, nous avons préféré le système « un homme, toutes les voix, toutes les fois ». La société algérienne nous a démontré depuis 1995, avec ce fameux pacte de Saint-Égidio, que malgré la division profonde qu'il pouvait y avoir entre Louisa Hanoun, que nous retrouvons d'ailleurs pour la quatrième fois ou la troisième fois comme candidate à la présidence de la République, et Anouar Haddam, qui était un représentant du Front islamique de salut, il y avait suffisamment de conscience politique pour que les gens, malgré leur diversité, malgré la diversité de l'historicité de leur ancrage politique dans la société, puissent dire « nous sommes différents, mais nous pouvons faire un bout de chemin politique ensemble ». Donc moi, je ne me fais pas de soucis sur la capacité de la société algérienne demain, dès lors que la possibilité de la mise en place d'une consultation institutionnelle crédible sera là. Je ne me fais pas de vrais soucis sur la capacité de la société algérienne de fonctionner dans sa diversité de façon infiniment plus efficace que ça n'a été le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque, bien, on va le dire peut-être sur le terrain économique, le bilan de ce système politique depuis l'indépendance est proprement catastrophique.
Alors justement, en préparant cette émission, j'ai pris connaissance d'une analyse du Fonds monétaire international de janvier 2014. Elle est plutôt alarmante, cette analyse. Rapidement, on y parle d'une trajectoire budgétaire qui n'est pas viable car l'Algérie est trop vulnérable à une baisse prolongée des prix du pétrole, à une dégradation de la conjoncture mondiale et à une intensification des tensions régionales. Un commentaire, Ali Bensane ou François Burger.
Juste rappeler un chiffre qui cloue au pilori les décideurs algériens. À l'heure où nous parlons, 97% des ressources de ce pays viennent de la rente hydrocarbures, c'est tout. Il n'y a pas eu la moindre capacité, malgré ce pays, sur le papier, il a un territoire magnifique, il n'avait pas une pression démographique excessive comme c'est le cas de l'Égypte. Enfin, sur le papier, l'Algérie pourrait avoir une croissance économique réelle. L'Algérie a un capital financier qui dort. J'emploie souvent l'image, je dis... Ils ne peuvent même plus injecter de l'argent dans le tissu économique parce que les canalisations sont trop poreuses. Donc cet argent sert exclusivement à un traitement social des tensions politiques. On subventionne les denrées alimentaires de base, on achète des appartements, on paye des prébendes, mais on n'est pas encore arrivé à faire décoller le potentiel économique de ce pays. Et ça, c'est effectivement le plus terrible des échecs de ce système.
Et ça, c'est un manque de volonté politique, Ali Bensane.
Alors, le système de rente, c'est pas seulement dans le fait que, comme l'a dit François, l'essentiel, en fait, des exportations, des rentrées en devises de l'Algérie, c'est le pétrole. Il y a le fait qu'en fait, on n'a pas réussi à faire émerger un entrepreneuriat dans ce pays-là. Je pense que le bilan de Bouteflika, pour caricaturer, je le limiterai à dire « vive la Chine ». Vive la Chine doublement. Vive la Chine qui, en faisant accroître son économie, a fait monter les prix du pétrole. Quand il est arrivé Bouteflika, le prix du pétrole était à 16 dollars le baril. Il a même pu être à 9. Il est à 100. Et même actuellement... Comme on est dans une logique de gestion distributive et rentière des crises sociales, je vous prends un exemple. Qui construit des logements actuellement en Algérie ? C'est les Chinois. Donc, il n'y a pas eu développement d'un tissu économique entrepreneurial. Et la crise du logement est beaucoup plus profonde en Algérie qu'au Maroc ou en Tunisie, qui sont beaucoup plus pauvres, etc. La corruption. On connaît le Maroc pour sa corruption. Or, je vous donne les statistiques de ces 5 dernières années, elles ne cessent d'évoluer et l'Algérie a été en 2008 12 rangs derrière le Maroc pour la corruption et en 2012, dernière statistique, 32 rangs derrière. Mais le problème n'est pas tant la corruption, parce qu'au Maroc aussi, il y a de la corruption, il y a de l'entreprise. En France aussi, le problème, c'est comment circule l'argent de la rente. En général, l'argent de la rente, il circule de la part des entrepreneurs qui sont ponctionnés par les tenants du pouvoir. En Algérie, il circule autrement. C'est le pouvoir qui le redistribue pour se créer une clientèle privée captive, ou alors il prend le détour d'entrepreneurs prête-noms pour détourner de l'argent public. Et c'est pour ça que le plus grand échec, c'est même pas tant le détournement et la corruption que l'absence d'émergence d'une classe entrepreneuriale dans ce pays, pourtant, qui croule sous l'argent. Puis je vais vous donner quelques petits chiffres sur la corruption pour les acquisitions de biens immobiliers à Paris et dans le proche Paris luxueux. Les Algériens non résidents, c'est-à-dire ceux d'ici, sont troisième juste après les Américains et en même temps que les Britanniques pour l'acquisition de biens immobiliers luxueux. Encore qu'on sait que maintenant il y a des montages beaucoup plus sophistiqués, etc., et que la France, c'est pas le pays auquel on se destine le plus. On estime par exemple que dans le secteur informel, il y a 20 milliards d'euros qui circulent, etc. Et donc, en fait, il y a une véritable déstructuration de l'appareil économique, y compris celui qui a été édifié du temps de Boumediene, etc. Donc, absence d'émergence de tissu entrepreneurial, destruction et informalisation de l'économie. Et en fait, la crise du système, encore une fois, je le répète, c'est cette nouvelle classe prébandière, hein, en dehors de toute norme, qui veut s'autonomiser du militaire, mais pas pour ouvrir le champ politique, qui veut devenir en elle-même une force politique, et c'est en gros le clan présidentiel. Vous avez toutes les grosses casseroles, vous avez Chakib Khalil, et encore, c'est parce que c'est la justice italienne, etc., qui l'a découvert. Vous avez un des promoteurs de la campagne, Ammar Roul. Vous savez que l'autoroute algérienne, c'est le mètre carré le plus cher au monde. Ammar Roul, qui actuellement promeut la campagne de Bouteflika, il est dans des affaires de corruption au niveau de milliards. Et donc, effectivement, c'est ce groupe qui veut s'autonomiser. C'est un groupe social né dans l'informalité, né dans la corruption et qui investit plutôt son argent à l'étranger. Et la tension, si je peux dire, c'est ce groupe prébandier qui a pris tout le monde de vitesse et qui fait que les tenants du système sont en pleine panique.
Et quelle durée de vie encore pour ce système, Ben Saad ?
Pour moi, c'est de l'ordre de quelques mois.
Quelques mois.
Avant d'aborder une tension très vive.
On va parler de l'Algérie dans son environnement régional.
Et parce que je pense aussi, peut-être qu'il faut parler d'une chose, vous voyez tous les mouvements de contestation qui se font. Là, je viens de lire que celle-là, elle s'est fait donc jeter des pierres, etc. Mais il y a actuellement de véritables concertations pour une transition des partis aussi respectables que le FFS, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, c'est une question de jour, mais aussi parce que ceux d'en haut ne peuvent plus. Et je pense qu'on va en arriver à des confrontations beaucoup plus dures. Et peut-être que la violence, c'est ça qui serait malheureux, qui s'exerce à l'intérieur du système, risque d'être déportée sur le terrain du social, dans la rue, parce que souvent les différentes factions du pouvoir, sans réduire pour autant les mouvements sociaux à cela, s'affrontent en utilisant le paravent des mouvements sociaux, des mouvements politiques, etc. Et c'est ça qui est à craindre, et c'est vis-à-vis de cela qu'il est urgent de prendre des initiatives pour qu'on ne débouche pas sur une résolution de conflits entre factions par de la violence.
Le temps court. Quelques mots sur la politique étrangère de l'Algérie. On a vu le secrétaire d'État américain, Monsieur Kerry, en visite à Alger, François Burga, il y a quelques jours. Une visite un peu controversée parce qu'elle a été vue comme un appui au président Bouteflika. Mais pour Monsieur Kerry, il était important de venir parler de sécurité, notamment de sécurité au Sahel. Qu'est-ce que l'on peut dire de la relation entre Alger et Washington aujourd'hui, François Burga ?
Juste avant, je ne résiste pas au plaisir tout de même de dire une phrase de la relation franco-algérienne. Le pire de ce qui se fait en Algérie depuis les 30 dernières années, c'est fait avec l'appui constant, régulier, unanime de la diplomatie française. Il n'y a pas eu une exception à la règle. Nous avons financé la politique d'éradication des forces qui avaient été élues en 1991. Nous avons défendu au sein de l'ensemble européen les plus pires extrémités de la politique algérienne et nous le faisons jusqu'à ce jour. Donc il faut le dire. Alors effectivement, la visite de Kerry est intéressante parce que c'est une page très récente qui sent très fort le gaz. Qu'est venu faire Kerry au sens propre et au sens figuré? Qu'est venu faire Kerry dans ce contexte pitoyable où une erreur de traduction, il faut bien le dire, a donné l'impression, look forward, le secrétaire d'État aurait dit qu'il se réjouissait de la transparence à venir des élections. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'ils espéraient que ces élections seraient transparentes. Mais disons, il est venu vraisemblablement pour anticiper une contre-offensive anti-Poutine qui prendrait appui sur une augmentation de la production du gaz algérien. Il est venu vérifier qu'il pourrait faire pression sur l'Algérie dans ce cas-là.
Pour fournir davantage de gaz à l'Europe, notamment.
Pour le reste, les hauteurs dominantes de la politique américaine au Maghreb, ça a été de se laisser vendre le discours de la déstabilisation des frontières sud du pays, qui permettait aux Américains de mettre un pied armé pour venir défendre des groupes armés dont le paradoxe est que certains d'entre eux étaient quasiment créés par celui qui voulait vendre sa capacité de force pacifiante aux puissances étrangères pour qu'on ne vienne pas s'interroger sur la fragilité de sa légitimité interne. C'est ça la formule politique qui a fonctionné. Nous y sommes impliqués, les pieds et les mains, et ni nos pieds ni nos mains ne sentent bien bon à l'heure où nous parlons aujourd'hui.
Ali Ben Saad.
Oui, alors il faut rappeler d'abord que Kerry avait refusé de venir en Algérie en février, il était passé à Tunis. Donc s'il est venu cette fois, ici, il y a deux éléments. D'abord, c'est qu'ils ont bien senti qu'il y a eu un consensus fragile, et ce qui nous fait dire que Bouteflika va passer. Effectivement, il y a le fait que les Américains sont ce qui ne semble pas être l'avis des Européens et notamment des Français. J'ai entendu le PDG de Total qui n'était pas très chaud pour éventuellement un blocus avec la Russie, etc. Et donc, effectivement, comme le disait François, il faudrait, dans cette situation où il risque d'avoir des tensions et où les Européens ne sont pas très chauds pour une confrontation sur les questions énergétiques avec la Russie, de venir assurer des arrières. Mais il y a deux choses aussi. Je pense que les Américains, pour eux, l'Algérie, c'est aussi la question du Sahel. Mais là où ils sont en train de se gourer, c'est que ce régime qui est en train de se fermer à l'intérieur est en train de se fermer à l'extérieur. J'ai bien suivi actuellement la question du rapport de l'Algérie au Sahel. L'Algérie a perdu pied au Sahel, y compris au profit du Maroc. La preuve, le Maroc est devenu un intermédiaire dans les négociations avec le mouvement de l'Azawad au Mali, alors que jusque-là, c'était une chasse gardée, que tous les accords de paix, etc., se faisaient à Alger, que c'était même une des grandes cartes diplomatiques. Et elle est en train de s'essouffler, notamment parce qu'elle a réduit sa relation à ces pays-là, à la manipulation sécuritaire, etc. Il y aurait beaucoup à dire. Vous savez que le général du DRS, qui s'occupait de traiter la question du Sahel, est actuellement au tribunal militaire, dans le cadre de ces luttes entre factions, etc. Et puis, si je peux dire, les Européens, en fait, avaient espéré à un moment donné des réformes, ils ne se font plus d'illusions. Et je pense qu'ils ont réduit le rôle de l'Algérie à un gardien du Sahel et à une source d'énergie sûre. Alors, vu son passé socialiste, nationaliste, militaire et, si je peux dire, de réservoir énergétique, elle est classée dans la même catégorie que la Libye, que l'Égypte, que la Syrie. Or, si on la classe dans cette catégorie, elle apparaît comme étant plus ou moins acceptable et réussit à vendre la stabilité. Alors que, il y a quelques mois, je pense la diplomatie européenne notamment, disait qu'en fait, avant le coup d'État contre Sissi, disait à juste titre que la situation en Tunisie est marquée par l'instabilité, la situation en Égypte est marquée par de l'instabilité, mais le possible chaos en Algérie pourrait être encore plus grand, et je partage entièrement cette analyse. Je pense que nous rentrons dans une grande zone de turbulence interne et régionale. Des reconfigurations au sein du pouvoir en Algérie ne manqueront pas de faire entrer toute cette zone dans une grande zone de turbulence et d'instabilité.
Donc l'Algérie, un pays à suivre aussi, je vous ai bien compris. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Ali Ben Saad, géographe du Maghreb, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et enseignant-chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et auteur de Le Maghreb dans la mondialisation aux presses universitaires de Provence, et François Burga, politologue, directeur de recherche également à l'IREMAM, co-directeur avec Bruno Paoli de Pas de printemps pour la Syrie, paru aux éditions La Découverte. Cette édition de Géopolitique sur les élections algériennes était réalisée depuis le MUSEM à Marseille, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, où se déroulaient cette semaine les deuxièmes rencontres internationales des cinémas arabes. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Philippe Nadel à Marseille, Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, Géopolitique vous sera présenté par Sophie Malibaud.